Fidèles auditeurs, bonsoir et bienvenue à suivre Tribune des Presse ce soir sur Radio Okapi. Je suis Freddy Ignace Bikumbi. Au menu, la justice congolaise a été à la une cette semaine au pays. Trois points intéressent les journalistes congolais. La Cour constitutionnelle a rendu public son arrêt sur les dossiers Bukanga Lonzo. L'ancien premier ministre et actuel député national, Augustin Matata Ponyo, a été condamné à 10 ans de travaux forcés, aussi d'une inéligibilité de 5 ans et la confiscation de ses biens. L'arrêt de la Cour constitutionnelle est inattaquable. Une autre démarche judiciaire, enfin d'obtenir l'autorisation d'instruction contre le ministre d'État, ministre de la Justice et garde du Sceau, Constant Mutamba, a été porté à la connaissance des députés nationaux. À en croire le président de l'Assemblée nationale, cette démarche est un réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation. Le ministre d'État, ministre de la Justice, est soupçonné d'avoir trempé dans un détournement de fonds estimé à 19 900 000 dollars américains, chose que Constant Mutamba réfute en bloc et parle de manœuvres politiques de ses adversaires idéologiques qui veulent, selon lui, saper sa personne. Tribune de presse, fidèles auditeurs, parlera de la démarche du Sénat congolais sur la levée de l'immunité de l'ancien président de la République, Joseph Kabila, sollicité par la haute cour militaire de la République démocratique du Congo. Pour la première fois, un sénateur à vie a perdu ses immunités au profit de la justice. Comment est-ce que le journaliste congolais analyse-t-il toutes ces démarches judiciaires visant les hommes politiques au pays? Si la justice élève une nation, quel rôle joue-t-elle actuellement dans l'apaisement de la tension sociale en cette période de la crise sécuritaire et politique en RDC? Nous en parlons avec Maguen Deba, journaliste et directeur de Maguen Media, société spécialisée dans la production des documentaires évoluant ici à Kinshasa. Bonsoir confrère.
Bonsoir Freddy, bonsoir aux auditeurs de Radio Okapi.
Nico Faye, bonsoir doyen.
Bonsoir estimé, je salue aussi les amis avec lesquels nous allons partager ce plateau.
Vous êtes journaliste indépendant ici à Kinshasa. Et en ligne, Jules Maguené, bonsoir.
Bonsoir chers confrères, bonsoir à tous les auditeurs de la Radio Okapi et à tous les confrères avec qui vous êtes dans le studio.
Vous êtes journaliste basé à Bukavu, au sud Kivu, avec Congo Bosolo, un média en ligne. À vous tous, bienvenue. À la technique, c'est Alain Goy. Ouvrons ces débats avec vos commentaires sur l'actualité de votre choix cette semaine. On commence avec vous, Maguené Deba.
L'actualité qui m'a intéressé particulièrement, c'est la levée des immunités de Joseph Kabila au niveau de la Chambre haute du Parlement.
Parce que nous allons parler même aujourd'hui.
Justement, à un certain moment, on se disait, est-ce qu'ils le feront, est-ce qu'ils ne le feront pas? Ils l'ont fait, et j'ai l'impression que c'est surtout un doigt d'honneur à la cohésion nationale.
C'est une jurisprudence.
Un doigt d'honneur.
Merci, Nico Faye. Quelle est l'actualité que vous voulez commenter?
Vous allez me donner quelques brins de minutes. Mais toutefois, je ne saurais m'en passer du rappel national que l'opinion retienne que ça fait 1071 jours depuis que la cité de Bunagana a été prise par le rebelle. Et il n'y a plus qu'à la cité de Bunagana. Il y a aussi la ville de Goma. Ça fait déjà 117 jours. Même situation aussi pour la ville de Bukavu. Et 87 jours et 517 jours depuis que le régime nous a placés dans cette situation où on ne sait pas combien un mandat qui peut commencer le 24 janvier 2019, le mandat ayant 5 ans, mais que l'on assiste à une autre cérémonie le 20 janvier. 357 jours depuis que Judith a été nommée à tête du gouvernement allemand d'Afrique, 6 ans et 321 jours depuis que la Constitution empêche au régime d'organiser les défilés d'indépendance. Toutefois, il y a des situations qui nous préoccupent. Il y a la situation aussi des élèves et de ceux-là qui ont décroché les diplômes d'État et les diplômes d'université. Tous ces gens-là ne sont pas en possession de leur diplôme. beaucoup ont payé même leur argent, mais on ne leur a jamais délivré les diplômes.
Ça, c'est le travail du ministère.
Mais je dis, nous,
de l'enseignement.
Nous faisons un constat et que ce soit au niveau des humanités, les diplômes d'État, que ce soit au niveau des instituts supérieurs et universitaires, certains même ont eu à payer l'argent, mais malheureusement, le régime n'a l'air à jamais de donner le titre. Il y a une situation qui a beaucoup, qui préoccupe les gens. On parle beaucoup plus de mécanisation et des paiements des agents et fonctionnaires. Il y a un agent auxiliaire, M. Armand Tafoudou Okasso, depuis 2012 qu'il avait été engagé comme fonctionnaire, il est maintenant retraité, mais il n'a jamais touché le salaire.
Il travaille où?
C'est un agent de l'État, au ministère de la Justice. Il est affecté de tripé et Kinkole. Comment vous pouvez faire exploiter quelqu'un et vous dites que non, on a renvoyé les gens à la retraite? Mais la retraite là, est-ce que la situation avait été régulière avant la retraite? La situation de salubrité, je me pose la question. La salubrité fait partie de l'ordre public. L'état d'immondice que j'ai vu hier sur l'avenue Kasavubu,
c'est ici à Kinshasa.
À Kinshasa, entre l'avenue Ikelemba et avenue Lopori, dans la commune de Kasavubu, du côté de Kasavubu, parce que avenue Kasavubu sépare la commune de Kalamu et la commune de Kasavubu. Vous quittez Victoire, vous faites comme si vous allez vers Bongolo, entre l'avenue Ikelemba et avenue Lopori, non.
Merci. Nous allons du côté de Bukavu avec Jules Maguené. Quelle est l'information, l'actualité que vous voulez commenter?
Merci beaucoup, cher Freddy. Toutefois, je voudrais donc jeter une aide dans les territoires de Chabunda actuellement. Mon aîné Nico Fay a l'habitude donc de le faire. Et bien entendu, la population de Chabunda actuellement traverse un moment particulier. Du fait qu'il y a le bien des premières nécessités, donc les denrées des premières nécessités ont galopé à ces côtés-là. Un verre donc du sel qui coûtait jadis 1000 francs, actuellement ça s'achète bien entendu à 5000. Un litre de carburant, bien entendu, qu'on négociait à 5000. Aujourd'hui, c'est à plus de 15 000 francs congolais. Une bouteille de prémices, de la bière prémices, qui coûtait jadis au moins 10 000 francs, actuellement, c'est 30 à 35 000 francs congolais. Donc, il faut que le régime de M. Félix Tshisekedi puisse faire quelque chose afin de sauver cette population de ce territoire qui est enclavé.
Merci bien pour ce partage d'actualité. Vous avez bien commenté sur la vie que mène le Congolais. Parlons maintenant de la justice en République démocratique du Congo. Le premier point de notre sujet, c'est l'affaire Bukangalonzo, un parc agro-industriel, un projet de 2013 qui devrait donner solution aux problèmes alimentaires et créer des emplois aux Congolais avec un fonds de roulement de plus de 5 milliards de dollars américains. Trois personnes ont été poursuivies pour détournement de fonds à hauteur de 285 millions de dollars américains. Gobert, Deogracias Mutombo et Augustin Matata Ponyo. Mercredi dernier, la Cour constitutionnelle a rendu public son arrêt condamnant l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo à 10 ans de prison et confiscation de ses biens. Que dire de cette démarche de la justice? Le projet Bukangalonzo date du régime passé de Joseph Kabila, surtout que le président Tshisekedi a promis ne pas fouiller dans le passé, et voilà, la justice a tranché. Je commence avec vous, Nico Fay.
Merci beaucoup, estimé. Nous avons tous appris le prononcé de l'arrêt au niveau de la Cour constitutionnelle. À ce stade, je ne saurais commenter une décision de justice, mais cela, en tant que Congolais, ça ne peut pas m'empêcher aussi de mettre un point de vue par rapport à la procédure. Aujourd'hui, il y a une décision, mais nous savons tous que le fond, pour être entamé, on doit voir aussi la forme. La question que nous posons aujourd'hui, oui, il y a une condamnation. Mais comment expliquer que, d'après les informations à ma possession, Matata Ponyo ne serait plus au Congo?
Comment ça?
Oui, d'après les informations à notre possession, Matata Ponyo aurait déjà quitté le Congo et serait déjà en Belgique.
Aurait quitté.
Serait déjà en Belgique et je...
Serait aussi en Belgique.
Et si c'est là, d'après déjà les sources concordantes, cela est vrai. Je vais alors me poser la question, si réellement nous sommes sécurisés, si réellement nous sommes sécurisés par le même régime, on n'est pas dirigeant seulement pour dissuader de condamnation, l'on est aussi dirigeant pour sécuriser ces mêmes peuples-là. Si aujourd'hui Matata Ponyo se trouve en Belgique, devons interroger maintenant les dirigeants. Comment...
Il était libre de ses mouvements avant l'arrêt de la cour.
Et comment est-il sorti? C'est-à-dire, les sorties ne sont pas contrôlées et de même aussi que les entrées. Ne peut quitter les frontières, ne peut franchir les frontières nationales que celui qui passe par les postes des frontières et celui qui est identifié. D'où? Si je dois aller dans, suivre votre logique, étant donné que Matata Ponyo était en liberté, qu'il pouvait aussi quitter le territoire national sans que le service de sécurité, sans que les services commis aux frontières ne soient informés. On est où là? On est où? On est où? C'est gravissime comme argumentaire de votre part. Si je suis légaliste, je suis auxiliaire de la justice, mais ça ne peut pas se comprendre que un Congolais de ce rang-là, condamné aujourd'hui, puisse franchir les frontières nationales sans que les services de l'État ne soient au courant.
Quelle est votre crainte? Vous ne voyez pas que l'arrêt de la Cour sera appliqué?
Nous sommes en matière pénale. L'arrêt de la Cour s'applique vis-à-vis de qui? Cet arrêt ne s'applique pas vis-à-vis de la femme de Matata. Cet arrêt ne s'applique pas sur les enfants de Matata.
Ça s'applique
sur Matata Ponyo. L'individu Matata Ponyo, la personne physique Matata Ponyo, que servirait un arrêt dont la personne était au pays mais n'est plus au pays. Pourquoi avoir laissé faire? Pourquoi l'avoir laissé partir? Nous prenons des hypothèses. Si les services peuvent dire que non, il a quitté le pays sans qu'il soit au courant, c'est une défaillance de l'État. S'ils disent que non, il est sorti du pays avec leur autorisation, c'est-à-dire nous allons nous poser la question... À quoi alors le procès a servi? Ça reste sur papier.
Avec vous, Gilles Maguené, comment est-ce que vous voyez la décision de la Cour qui est tombée, qui est arrivée? Matata Ponyo, ancien Premier ministre, est en tout cas été condamné à 10 ans.
Bien sûr, c'est quelque chose que nous tous nous avons vu, que moi personnellement, en tout cas, je n'ai pas apprécié. Du fait que le moment actuel, pour moi, ne me permet pas, en tout cas, de croire que c'est le moment de faire des poursuites judiciaires à certains leaders politiques de l'opposition ou de la majorité, soit-il. Mais bien entendu, on a tout suivi, mais je pense que c'est en quelque sorte une aggravation, hein. Pour le moment, si l'on veut continuer à attaquer les politiques.
Aggravation de quoi?
Oui, aggravation des tensions. Parce que ce sont les leaders politiques, ils ont des opinions au sein de leur base politique partout. Vous n'êtes pas sans savoir que Matata Ponyo, c'est impopulaire, c'est un homme connu au Maniema. Et quand il faisait ses actions en 2013, 2012, 2014, j'étais encore au Maniema avant que je vienne ici à Bukavu. Mais Monsieur Freddy, il faut savoir peut-être une chose, que l'aggravation dont je suis en train de parler ici, c'est peut-être, c'est dans le cadre plutôt des poursuites judiciaires de leaders. Nous sommes ici à l'est de la RDC, actuellement à Bukavu. Il y a Kindu qui n'est pas encore entre les mains de l'AFC M23. Parce que je vais parler un peu de ça. Parce que quand j'ai vu une vidéo de certains Wazalendo au niveau
de Kindu ou d'Imanema déclaraient que, comme le régime de Félix Tshisekedi a voulu condamner Matata Ponyo, donc ils vont relâcher ou ils vont céder cette partie donc, du pays entre les mains de l'AFCM. Donc, c'est cette aggravation des tensions dont je suis en train de parler. Alors, rentrons sur la question de la justice. C'est inattaquable, comme la théorie le fait bien. On n'a pas en tout cas trop de commentaires à dire sur cette question. Mais il y a aussi question de forme. Bien sûr, c'était litige sur les détournements. Mais la question que moi je suis en train de me poser, le détournement accompagne les travaux forcés. Les travaux forcés ici chez nous en RDC, parce que ce n'est pas le premier procès ou la première condamnation, mais l'esprit de du législateur congolais voudrait bien que la différenciation entre les peines, il y a peine de mort, il y a travaux forcés, servitude pénale, confiscation spéciale, l'obligation ou s'éloigner de certains lieux. Alors, avec toutes ces formes, mais Matata Ponyo, vous venez de l'apprendre, qui ne serait plus en RDC, mais il serait déjà quelque part.
Ce sont des fake news. Ça vient des réseaux sociaux.
Des fake news, mais tout commence par les réseaux sociaux. Vous avez une page où vous-même vous pouvez toucher quelque chose et vous publiez. C'est quelque chose des réseaux sociaux, mais quand même, c'est une véracité. Alors, pour dire, je voudrais dire quoi? Je voudrais dire que Matata Ponyo, est-ce que, comme de coutume, il va travailler au service ou à l'intérêt de l'État congolais. Il sera là en train de purger dans la prison, parce que la logique voudrait que Matata Ponyo puisse travailler dans des chantiers où l'on construit, je ne sais pas, des immeubles de l'État, où il y a les champs de maïs de l'État et partout là. Mais actuellement, nous l'avons vu à travers Kamer, qui a pu faire au moins 2 ans en prison, avec les travaux forcés, il n'a pas pu, en tout cas, respecter la logique des choses. C'est là où il y a aussi un problème très, très sérieux. Alors, moi, je m'appesantis surtout sur la question de l'opportunité de cette condamnation. Monsieur Freddy, c'est tout à fait normal que nous puissions avoir une justice qui est indépendante, une justice en tout cas qui élève une nation. Mais prenons le cas ici chez nous, à Bukavu. Moi j'étais ici quand l'AFC M23 faisait son entrée ici. Mais tous les prisonniers qui étaient dans des prisons, tous ne sont plus. À Bukavu, il n'y a plus de prison. Donc, pour dire que si l'on alimente encore les conflits dans les pays, dans les jours subséquents, nous pouvons avoir des problèmes. Tout ce que nous pensons que tous ceux qui sont devenus prisonniers aujourd'hui, demain après demain, ils peuvent sortir de ces prisons sans qu'ils puissent consommer leur peine. Donc c'est ça le problème. Le régime en place doit tout faire pour mesurer la dangerosité de tout acte qu'il est en train de commettre pendant ce moment-ci. Donc,
merci.
Moi, je ne suis pas en tout cas pour ce que la justice est assez pour Matata Ponyo ou ce qu'elle est en train de faire, parce que c'est un moment inopportun pour moi. Je voudrais bien qu'on puisse d'abord tabler sur la question de la cohésion nationale, qu'on trouve d'abord la paix. Maintenant, d'autres contentieux pourront suivre lorsque nous serons dans un climat politique et juridique, si je peux le dire, qui serait stable dans les jours subséquents. Mais dans des moments pareils où il y a des tensions ci et là, moi je ne pense pas que nous pouvons avoir gain de cause dans tout ce que nous sommes en train de chercher. Parce que la condamnation de Matata Ponyo, ne fait rien ici chez nous.
Avec vous, Maguen et Deba, vous sentez que la Cour a rendu public son arrêt, et même l'arrêt dit que Matata sera inéligible pendant 5 ans.
Bien sûr.
Que dites-vous?
Bon, je vais corriger quelque chose chez Jules, que je salue. En fait, c'est une clarification. La loi congolaise, formellement, prévoit les peines de travaux forcés, mais aussi la peine capitale. Mais dans la pratique, ce sont des peines qui ne sont pas appliquées parce qu'elles sont contraires à des traités que la RDC a signés. Et donc, naturellement, la RDC devrait harmoniser ses lois, son code pénal, en vue de le mettre à jour et sûrement abolir la peine de mort, parce qu'on a signé des traités abolitionnistes, abolir la peine de mort, mais également la peine des travaux forcés. C'est pour ça que chaque fois qu'une personne est condamnée à la peine capitale en RDC, la peine est commuée. C'est la commutation de peine. Elle est commuée à la
perpétuité.
À l'emprisonnement à perpétuité. Et quand une personne est condamnée à des travaux forcés, cela aussi est commué en peine d'emprisonnement. Et donc, il n'y aura pas des travaux forcés. Quand mère est en prison, lorsqu'il y était, il n'avait pas été soumis à des travaux forcés qui,
de la torture,
qui sont considérés comme des actes de torture, qui sont considérés comme des actes d'esclavagisme.
Donc voilà. Matata, s'il va
en prison, il ne sera pas soumis à des travaux forcés. Maintenant, par rapport à la décision qui a été rendue, je l'avais dit, j'en ai eu l'occasion sur les ondes de Radio Okapi, je vais leur dire, personnellement, je ne suis pas opposé à la condamnation de qui que ce soit. Et encore une fois, parce que c'est en vogue, et je comprends l'attitude générale des Congolais de dire, nous sommes dans une période délicate, nous sommes dans une période où on a besoin de cohésion, et donc il ne faudrait pas condamner des gens. Mais la question, c'est de savoir, est-ce que, puisqu'on a la guerre du M23 aujourd'hui, si quelqu'un vole, on le laisse. Si quelqu'un viole, on le laisse. Je crois que le plus important pour le gouvernement, c'est de procéder avec nuance. La nuance, c'est-à-dire, il y a des décisions judiciaires qui sont purement judiciaires. Il y a des décisions judiciaires qui sont des décisions hautement politiques. Et la condamnation de Matata a une connotation et un retentissement beaucoup plus politique que judiciaire. Je m'explique. Matata, en 2013, lorsque le projet Bukangalonzo est lancé, il est Premier ministre. On s'attend à beaucoup. Au Congo, on a eu à peine le service national, parce que du temps de Mzee, Laurent Désiré Kabila, quand il arrive au pouvoir, il lance le service national et il nous produit, le gouvernement produit du maïs qui est acheminé à travers plusieurs provinces du pays. Et on sent que l'agriculture peut donner une puissance à la RDC à cette époque-là. Si bien que le lancement de Bukangalonzo, qui avait été perçu comme un projet du type service national, mais avec une plus grande envergure, avait amené beaucoup d'espoir. Alors, quand le projet Bukangalonzo a avorté, puisqu'il n'a jamais abouti, on était des très nombreux Congolais à vouloir avoir des éclaircissements sur les sujets. Ce n'est pas parce que 12 ans se sont écoulés que ce n'est plus une préoccupation des Congolais. On veut savoir, on voulait avoir des éclaircissements. Et quand le président Tshisekedi était arrivé au pouvoir et que le dossier Bukangalonzo avait été ouvert en justice, moi je suis de ceux qui étaient curieux. Moi je suis de ceux qui étaient très intéressés à savoir ce qu'il devait en être. Mais le problème, c'est que on arrive à une étape où la justice se dessaisit. Parce que la Cour s'estime incompétente.
Là, vous voulez parler du premier arrêt de la Cour constitutionnelle.
Exactement.
Là où le président actuel était aussi parmi les juges.
Exactement.
Aujourd'hui, il est devenu président de la Cour.
Il est devenu président de la Cour. Et qui, peu importe qui est président de la Cour constitutionnelle, ce qui est important, c'est que la Cour constitutionnelle, l'institution Cour constitutionnelle, s'était déjà déclarée incompétente pour juger des actes posés par un ancien Premier ministre du temps de ses fonctions au moment où il n'est plus en fonction. Parce que c'est cela l'enjeu de cette affaire. Et vous dites, vous le soulignez, parce que on nous le répète, et parce que c'est cela l'esprit de la loi, que les arrêts de la Cour constitutionnelle sont inattaquables.
Ouais.
Mais ils sont inattaquables, y compris par la Cour constitutionnelle. C'est ça veut dire que s'il y a eu un arrêt initial, selon lequel telle juridiction, la Cour constitutionnelle elle-même soit-elle, n'est pas compétente pour juger Matata pour ces faits-là, cet arrêt était inattaquable lui aussi. Cet arrêt était irréversible. Et à partir de ce moment-là, la Cour ne pouvait plus se rendre compétente. C'est ça la réalité, c'est ça la loi. Il y a un vide juridique. C'est ce qui avait été constaté en son temps par celui qui était président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kalouba Dibwe, n'est-ce pas? Et il a dit, après examen de la loi, que il n'y avait aucune juridiction qui était compétente pour connaître des actes commis par des faits commis par un ancien Premier ministre. Puisqu'on ne va pas, on ne va pas le juger comme Premier ministre. Il n'est plus Premier ministre. Et il n'y a, on a, la loi n'a pas prévu ce qu'on fait d'un ancien Premier ministre. Donc, un bon juriste, il a dit, on n'est pas compétent, même si on est la haute cour. Et ça, c'est la loi. Même si c'est une défaillance qui profite, pas seulement à Matata, à Deogratias Mutombo, mais pas seulement à eux, aux Sud-Africains Gobler, et pas seulement à eux, parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont censées être passées devant la barre dans le dossier Bukangalonzo. Mais à partir du moment où la loi ne prévoit pas un juge naturel pour un ancien Premier ministre pour des faits qu'il avait commis en fonction, personne ne devait appeler Matata à la barre. C'est ça la plus grande préoccupation. Et donc, changer cela, c'est changer des procédures et c'est changer la loi et c'est violer la loi.
Un autre fait, c'est en date du 14 avril 2025 où un contrat de gré à gré relatif à la construction d'un immeuble carcéral à Kisangani a été signé entre le ministère de la Justice et la société Zion SARL de Madame Angèle Marie Inemahoro. Le procureur général, près la Cour de cassation, y voit un détournement de fonds à hauteur de 19 900 000 dollars américains de cette maison carcérale. Et que pour le procureur général, près la Cour de cassation, le ministre de la Justice a respecté que deux conditions sur les trois autour d'un marché de gré à gré. Aussi, dans ce contrat de 29 millions de dollars, il n'y a pas de TVA et autres taxes. Et voilà la situation. Et directement, le procureur demande à l'Assemblée nationale de l'autoriser à poursuivre le ministre d'État, ministre de la Justice, pour des soupçons. Comment trouvez-vous cette démarche du procureur? C'est encore une fois la justice congolaise qui est en cadence. Selon vous, comment vous trouvez cette démarche, Magendeba?
Pour moi, c'est une démarche normale. C'est une démarche légale. De même que j'ai dit que la première démarche contre Matata Ponyo était normale. Maintenant, on va suivre le cours de cette procédure. J'ai suivi le réquisitoire lu par le rapporteur de l'Assemblée nationale sur le dossier de détournement présumé qui aurait été l'œuvre du ministre de la Justice. Je vais clarifier un élément très important parce que j'ai dû le faire déjà hier avec un député national qui disait est-ce que Mutamba a volé cet argent? De toute manière, c'est de l'argent qui a déjà été bloqué. Est-ce qu'il l'a volé? Je lui ai dit, le détournement, ce n'est pas le fait de voler. Le premier aspect du détournement, c'est vous êtes un mandataire public. On vous donne de l'argent pour la construction d'une école, vous construisez une route, c'est du détournement. Donc la première question qui se pose, est-ce que cet argent était destiné à ce projet-là? Parce que pour l'instant, on parle de l'argent destiné au fond des victimes
de Kisangani.
C'est-à-dire que si cet argent réellement était, parce qu'on va suivre le dossier, si c'était l'argent prévu pour les victimes de Kisangani, et que vous l'avez désaffecté en dehors d'une procédure légale, et le ministre, quel que soit le département, le ministre n'a pas la compétence de désaffecter des fonds publics. Le ministre ne peut pas prendre de l'argent destiné à une école pour construire des routes. C'est du détournement. Il faut que ce soit clair, parce que c'est ça le droit. Deuxième aspect de mon analyse, le réquisitoire du procureur général de près la Cour de cassation mentionne aussi une possible infraction des concussions. Et ça, c'est encore plus important, parce que la concussion consiste pour quelqu'un qui détient un mandat public de l'utiliser à des fins personnelles. Et un des indices des concussions, c'est le fait d'avoir conclu un marché de gré à gré dans un dossier qui n'est pas éligible pour le gré à gré.
Le réquisitoire montre qu'il a respecté que deux clauses sur trois. Hein,
voilà. Et le fait de ne pas respecter les critères de gré à gré, les modalités de gré à gré, laisse penser qu'il y aurait concussion. C'est maintenant à ce niveau-là qu'on pose la question. Pourquoi le ministre a-t-il privilégié le gré à gré? Quelle était l'urgence? Et quand on regarde dans le fond du dossier, on se rend compte qu'on a confié un marché qui, à terme, devait coûter 39 millions de dollars à une entreprise qui a été ouverte il y a de cela seulement une année. Ça veut dire que la qualification d'une telle entreprise pour l'exécution de ce type de travaux est remise en cause. Et si cette entreprise n'était pas qualifiée, si cette entreprise n'avait pas de l'expérience et les moyens nécessaires, alors on va poursuivre le ministre pour des faits de concussion, parce que, autrement dit, il aurait eu des intérêts personnels à confier ce marché à cette entreprise plutôt que de faire un appel public.
Gilles Maguené, comment est-ce que vous trouvez déjà cette démarche du procureur général près la Cour de cassation, qui trouve qu'il y a en tout cas de soupçons autour de 19 900 000 dollars sur l'affaire de la construction de la maison carcérale de Kisangani?
Moi, je pense qu'il joue bien son rôle sur l'affaire Mutamba actuellement, parce que jusque-là, il n'y a pas trop à commenter, parce que la procédure jusque-là est dans son chemin. Mais toutefois, je voudrais revenir à ce que mon confrère ici, Maguené, qui est mon ami ici, je ne comprends pas.
Bien sûr, Maguené Déba.
Voilà, monsieur Maguené Déba. Bien entendu, je voulais juste lui dire que la population congolaise est pour la justice. Et nous voulons une justice, en tout cas, qui est là pour la paix. Mais ce que nous ne voulons pas, juste, surtout nous qui sommes ici, il y a des cas que l'on ne voit pas l'opportunité, de dossiers qu'on ne voit pas l'opportunité d'attaquer actuellement ou d'activer. Et bien entendu, les dossiers Kabila, les dossiers Matata, mais les dossiers comme celui de Mutamba actuellement. Bon, bien entendu, on peut poursuivre. Mais là où moi aussi je suis en train de douter un peu, pourquoi on poursuit les Matata, les Kabila, les Mutamba? Mais il y a d'autres, bien entendu, les Nicolas Kazadi, il y a les problèmes ici des RAM et d'autres problèmes de détournement. Mais le régime en place ne fait pas allusion à cela. Moi, je pense que les problèmes de Mutamba, tels que le procureur au niveau a déjà instruit donc l'Assemblée nationale, et l'Assemblée nationale a constitué en tout cas une commission pour tabler sur cette question. Je pense que dans les jours subséquents, on pourra avoir bien quelque chose sur cette question et la procédure continuera. Mais moi, j'insiste sur une chose, cher confrère, c'est le fait que nous voulons une cohésion nationale. Et je voulais dire au président de la République, au-delà de tout ce que nous sommes en train de vivre actuellement, nous avons besoin de la cohésion nationale. Et on peut finir cette guerre par trois manières, monsieur chers confrères. Donc, par la voie des armes, par la voie diplomatique et par la voie des dialogues. Privilégions d'abord les dialogues, la cohésion nationale dans notre pays. Et non tout ce que tous les théâtres qu'on est en train d'orchestrer au niveau de Kinshasa. Nous qui sommes ici, nous souffrons tellement fort. Et la raison pour laquelle, en fait, c'est les cris du cœur que moi je suis venu présenter dans cette émission de la population qui souffre ici à l'est de la RDC. Donc, si l'on ouvre une Champions League de procès ou de poursuites judiciaires aux acteurs politiques, et bien entendu, de l'est de la RDC, cela a une connotation tribale sur ces affaires. Et raison pour laquelle j'appelle le régime du président Félix Tshisekedi de travailler sur cette question.
Merci bien. Nico Faye, comment est-ce que vous voyez, est-ce que l'Assemblée nationale pourra livrer Mutamba au procureur pour des poursuites judiciaires dans cette histoire de détournement, on soupçonne?
Il y a un problème, une question de droit qu'il faut se poser. Est-ce que pour poursuivre un membre du gouvernement, il faut nécessairement solliciter une autorisation d'instruction? Je ne sais pas. Maintenant, alors, dans le fond du problème, je parle de vers moi une correspondance de la première ministre datant du 8 mai 2025. Je vous dispense d'autres détails. Mais néanmoins, il y a un paragraphe dans lequel il dit, adressé au ministre d'État, y fait ensuite, elle vous instruit dans un premier temps de sursoir la procédure d'attribution de ce marché en attendant son approbation. Par ailleurs, elle note à votre attention que le délai des 10 jours prévu à l'article 20, alinéa 2 et 3 du décret numéro 23/12 portant manuel de procédure de marché public concerne l'approbation du marché dont le processus a été régulièrement suivi.
Ça signifie quoi?
C'est-à-dire, le détournement ne suppose pas seulement le fait d'avoir pris l'argent de l'État et l'affecter à des fins propres. Le détournement peut être stable dans les chefs si la procédure régulière n'était pas respectée.
Alors, il y a risque sur lui qui pèse.
Tout à fait. Mais au lieu de prêcher par des bons exemples, et que voilà, ici nous devons nous poser la question. Est-ce qu'il y avait opportunité d'aller construire une prison à Kisangani? Chaque action que les dirigeants doivent poser, l'on doit toujours se poser la question de l'opportunité des actes. Même en matière judiciaire, il y a aussi le principe de l'opportunité des poursuites. Quelqu'un peut avoir commis une infraction. Mais on se dit, dans ce contexte, est-ce faut-il nécessairement les poursuivre? Au nom de la paix, on peut sursoir certaines poursuites.
Au nom de la paix?
Au nom de la paix.
Mais notre justice est à l'ouvre maintenant.
Je vous donne un cas de figure. Vous avez connu le fils à Kadhafi, Salif.
Salif Islam.
Voyez tout ce qu'il avait commis comme bavure. Mais vous savez que non, Salif a été relâché au nom de la paix. J'ai même entendu qu'il aurait les velléités de se présenter comme étant candidat. A fortiori, dans un pays où il n'y a presque plus rien, mais le régime s'organise pour aller construire une prison à Kisangani. L'intention c'est quoi? On évite même d'abord de s'approcher sur Makala, où il y a surpeuplement, mais on préfère aller construire une prison en province. À quelle hauteur? On parle de 39 millions, 29 millions, mais néanmoins il y a déjà un décaissement de 19 millions. Posons-nous la question.
Vous soupçonnez quelque chose?
Non, mais c'est ça l'intention de tout. Pourquoi se précipiter en ne pas aussi respecter la procédure? Ici, nous ne sommes pas dans le cas de détournement, mais nous sommes dans le cas de tentative de détournement. Or, savons que lorsqu'il y a tentative, la personne court la même peine que celui qu'une infraction qui a été consommée.
Nous terminons avec ces points essentiels de la justice en RDC. Un réquisitoire de l'auditeur général des FARDC, le Sénat vient d'autoriser les poursuites de Joseph Kabila et lève à cet effet ses immunités de sénateur à vie. Avant le vote, le Sénat a adopté à l'unanimité les rapports de la commission spéciale qui a recommandé à la plénière d'élever les immunités du sénateur à vie Joseph Kabila et l'autorisation des poursuites judiciaires en son encontre. Voici ce récit de fait avec Michel Kifine Dangoy.
Voici le résultat du vote relatif à l'autorisation des poursuites et à la levée des immunités du sénateur à vie. Pour 88 voix, contre 5 voix, abstention 0 voix, bulletin nul 3. En conséquence,
par ces mots, Jean-Michel Samalukonde valide le vote de la levée de l'immunité du sénateur à vie. De quoi l'auditeur général des FARDC reproche-t-il à Joseph Kabila? Carole Aguito, rapporteur de la commission spéciale.
Les faits lui reprochés sont juridiquement qualifiés comme suit. Participation à un mouvement insurrectionnel par ses liens présumés avec le M23-AFC. Trahison. Participation à des crimes de guerre.
Dans sa résolution, le Sénat se dit compétent d'élever les immunités du sénateur à vie, affirme son rapporteur, Nefertiti Ngudianza.
Considérant que la levée des immunités d'un sénateur relève de la compétence du Sénat, conformément à cet article 107 de la Constitution, le Sénat donc lève les immunités parlementaires du sénateur à vie.
Le président de la République honoraire Joseph Kabila vient donc de perdre son immunité de sénateur à vie et est mis à la disposition de la justice pour prouver son innocence.
C'est une première en RDC. Jules Maguené, comment est-ce que vous trouvez cette décision de la plénière du Sénat?
Je pense que c'est la poudre de Perlimpinpin qui qualifie cette décision de la haute chambre du Parlement. Du fait que moi, je m'inscris dans cette logique qui pense que la population congolaise profite quoi à la levée des immunités de Joseph Kabila? Si ce n'est pas une question de M. Félix Tshisekedi de faire la santé politique. Donc moi je pense que lorsqu'il y a cette érosion donc de la loi, il y a également l'éboulement de l'État. C'est énigmatique qu'on puisse comprendre que Joseph Kabila est impliqué qui serait derrière ou les chefs de l'AFC et que le régime de Kinshasa est en pourparler avec l'AFC, mais c'est le même régime qui continue à clouer ce même partenaire avec qui il dialogue quelque part en coulisses. Donc, vous trouvez que le régime de Kinshasa n'a pas un objectif précis sur la question qui gangrène la partie orientale du pays.
Merci, merci, c'est votre conclusion aussi. Nico Faye, comment est-ce que vous trouvez le Sénat qui a décidé de la levée des immunités?
Chez nous, nous disons, la compétence est d'attribution. Devons réfléchir froidement. Il y a des questions que nous devons poser à ceux-là qui sont lancés dans cette mésaventure. Place-t-il la loi numéro 18/021 du 26 juillet 2018 portant statut des anciens présidents de la République élus, qui dispose à son article 8, pour les actes posés en dehors de l'exercice de ses fonctions, les poursuites contre tout ancien président de la République élu sont soumises au vote à la majorité de 2/3 des membres de 2 chambres du Parlement réuni en congrès suivant la procédure. Je pose la question.
Donc ici, c'est le Sénat seul qui a décidé.
Je dis ceci, et à qui est-ce que c'est une loi aujourd'hui? Quel est ce Congolais, en cas de faute commise par lui, cette loi peut lui être opposée?
Merci Nico Faye, c'est aussi votre conclusion. Et puis nous terminons avec vous, Maguené Déba, sur la décision de la plénière du Sénat.
Soit dit très rapidement, la Chambre haute, le Sénat, a le pouvoir d'élever les immunités des sénateurs du président Kabila parce que le règlement intérieur du Sénat dit, entre autres, parmi les prérogatives du Sénat, il est capable d'élever les immunités des sénateurs. Il ne précise pas, il n'exclut pas les sénateurs à vie. Mais le Sénat n'a pas la compétence, il faut vraiment souligner ça, le Sénat n'a pas la compétence de livrer un ancien président de la République à la justice.
Qui a la compétence?
Donc, s'il y a des poursuites...
Qui a la compétence?
Le Congrès. C'est uniquement le Congrès qui a ce pouvoir-là. C'est l'article 8 que Nico Faïl lisait tout à l'heure. Donc, si on poursuit Kabila en dehors d'un vote du Congrès, nous sommes dans une illégalité. Et vous savez que si nous en arrivons là, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de Congolais qui vont maintenant se rendre compte que c'est une très grande personnalité qui représente beaucoup pour la cohésion nationale qui est menacée et désormais le pouvoir de Tshisekedi se sera mis dans une illégalité très grave, dans une inconstitutionnalité qui peut avoir des conséquences comme on n'en a jamais imaginé.
J'ai posé une série de questions ici, parce que le Sénat tire son pouvoir de lever les immunités de celui qui a été validé par lui. Or, la qualité de sénateur à vie est une conséquence logique d'avoir été un président élu.
Merci, Nico Faye.
Si vous n'avez pas été un président, un ancien président élu, vous ne pouvez pas avoir cette qualité-là de sénateur à vie. Or, il y a une loi consacrée pour ceux qui ont été présidents élus, mais qui ne le sont plus.
Merci, Nico Faye. C'est par ici que prend fin la tribune de presse de ce soir. Chers confrères, merci de votre participation. Maguène Edeba, journaliste et directeur de Maguène Media, société spécialisée dans la production des films documentaires ici à Kinshasa. Nico Faye, journaliste indépendant basé ici à Kinshasa. Et à vous, Jules Maguène, journaliste à Congo Bosolo, un média en ligne. Vous étiez avec nous depuis Bukavu, c'est au sud Kivu. Si vous avez aimé, dites merci à l'équipe du dialogue entre Congolais. Stony Kelly Kouté, Guy Maté, sous la supervision de Martin Sebou Djangwe. Et à la technique, c'était Alain Goy et Hervé Voka. Au micro, c'était moi, Freddy Ignace Bikumbi. Je vous fixe rendez-vous vendredi prochain.